Alors, ce matin, on poursuit dans l'étude, dans la série sur David, un cœur qui bat pour Dieu. Mais avant, on va reprendre le psaume 23, hein, qu'on est en train d'apprendre par cœur. Et j'enlève à chaque fois, j'enlève des paroles, fait que ça stimule votre mémoire. Oui. Donc, le psaume 23, est-ce que vous allez le citer avec moi? OK, on y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bravo tout le monde. C'est merveilleux hein, quand on regarde ça, là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Il me fait reposer. Reposer. Ça commence pas par des exigences. Ça commence avec un Seigneur, un Sauveur qui prend soin. Amen. Amen. Il restaure mon âme. J'espère ce matin que le Seigneur va restaurer ton âme, va restaurer nos âmes. On va prendre l'autre présentation. Donc, David, un cœur qui bat pour Dieu. As-tu déjà pris une décision dont tu as eu honte après de ce que tu as fait? Oh, wow, ouais, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais peut-être qu'il n'y aurait personne qui dirait ça, là, qui avouerait ça. Mais on a pris une décision, puis on a eu honte après. On va parler de ça ce matin. On va parler parce qu'on est rendu là. C'est incroyable comment Dieu pourvoit à travers la série à nos besoins. Et j'aimerais vous lire dans le passage 1 Samuel 21. Donc, on est rendu là dans la vie de David. Tournez avec moi, si vous voulez bien, dans 1 Samuel 21. Juste pour vous mettre en contexte, la dernière fois, on a vu que Jonathan a protégé David. Hein? Vous vous rappelez, là? Qu'il avait fait alliance avec David, puis que Jonathan était fidèle, il avait rendu les armes même à David, ce qui voulait dire, je reconnais que c'est toi le roi. Et on a fait le parallèle avec nous et Jésus. Donc ce matin, David, ben, le contexte c'est qu'il est toujours en fuite, Saül le poursuit. Et ça va être quelque chose qui va durer très longtemps, ça, plusieurs années. Plusieurs années, David va être en fuite face à un roi qui est déchaîné contre lui. Donc, on arrive au verset 11, OK, parce que je vais juste sauver un peu de temps. Avant le verset 11, qu'est-ce qui se passe? C'est que David, après avoir parlé avec Jonathan, il se rend à Nob, où il y a le tabernacle. Puis, il demande au prêtre, « As-tu une épée à quelque part? » Parce que je suis parti tellement vite que j'ai pas pris mes armes. Pourquoi aller au temple de Dieu pour chercher une épée? C'est parce que lui, il savait qu'il y avait une épée, là. Ça n'a pas de sens sinon, là. Et l'épée qu'il y avait là, c'était nul autre que l'épée de qui? De Goliath. De Goliath que David avait donné comme en sacrifice ou en signe d'honneur à l'Éternel. Et qu'il a consacré à l'Éternel. Là, il retourne. Il dit, tu n'aurais pas une épée ici, par hasard? Ben, pas de pire, sauf l'épée de Goliath. David dit, donne-moi ça. Il n'y en a pas deux pareils. Fait que, il prend l'épée, puis on arrive au verset 11. David se leva et s'enfuit le jour même loin de Saül. Il arriva chez Achish, le roi de Gath. Il me semble qu'on a déjà vu ça, cette place-là, Gath. Qui venait de Gath? C'était Goliath. Goliath, qui l'a abattu. C'est une ville philistine, une ville ennemie. Donc, David se réfugie là, il cherche le refuge là. Mais les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui en l'honneur de qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? » Oh là là, David prit ses paroles à cœur et éprouva une grande peur vis-à-vis d'Achish, le roi de Gath. Il fit semblant d'être fou sur leurs yeux et accomplit des actes de démence devant eux. Il faisait des... Ça devait être beau à voir, hein? Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Il n'était pas juste talentueux dans la musique, là. Il avait des talents d'acteur. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses actes de démence? Faut-il qu'il entre dans ma maison? » Donc, là, on arrive au chapitre 22 et David, parti de là, se sauva. Donc, il se sauve avec sa peau. Prions. Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, merci Père d'être là ce matin. Dieu de gloire, majesté. Père, on veut s'humilier devant toi ce matin. Reconnaître que tu es Dieu. Se réjouir en toi, Seigneur. On te demande, Père, de tourner ta face vers nous, de nous accorder ta grâce. Oui, Seigneur, fais briller sur nous ta face et donne-nous ta faveur. Dieu de lumière, de qui nous descend toute grâce excellente, tout don parfait, nous sommes, Seigneur, dépendants de toi ce matin. Donne-nous un esprit de sagesse, de révélation. Éclaire notre intelligence, illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse te connaître intimement, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, d'être le bon berger. Prends-nous par la main ce matin. Conduis-nous dans les verts pâturages. Restaure notre âme. Viens, Saint-Esprit, prends le contrôle de cette rencontre pour ta gloire, pour la gloire de Jésus. Amen. Il y a quelques années, je me suis fâché contre ma petite fille parce que j'attendais un appel important, puis elle écoutait les bonhommes, puis elle criait, puis elle bougeait, puis j'ai dit, « Chut, papa, grand-papa est au téléphone. » Puis non! Puis là, je me suis fâché contre elle, j'ai perdu patience. Et j'avais honte après de ne pas avoir agi d'une manière digne de Jésus. Donc, ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'un cœur qui bat pour Dieu se tourne vers la croix de Jésus pour expérimenter la délivrance de la honte. La honte, là, c'est particulier, la honte. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre parler. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de considérer beaucoup dans notre vie. Et pourtant, c'est quelque chose qui nous habite. Et qu'on enterre souvent, qu'on veut pas regarder parce que c'est douloureux. Mais souvent, il y a de la honte dans nos vies, dans nos cœurs. Mais ce matin, c'est que je vais vous amener à voir que David, quand il vit la honte, là, il se tourne vers Dieu. Et Jésus est la personne qui a la solution pour ta honte. Donc, je vous invite à suivre David et à découvrir qu'est-ce que David a découvert. Ça marche? Ce matin, on va voir quatre choses. Retomber d'une décision insensée, définition de la honte, l'enjeu de la honte et la réponse de Jésus. Ça marche? Retomber d'une décision insensée. Qu'est-ce qui se passe? David a peur. Hein? Il a peur de Saül. Il n'a plus d'appui, sauf Jonathan. Et Saül, il est vraiment, vraiment, vraiment décidé là, de le tuer. Ça fait deux ou trois fois qu'il essaie de le clouer au mur avec sa lance. Il est allé chercher dans son lit chez lui. Il ne peut plus retourner chez lui. Il est allé... chercher chez Samuel dans l'école des prophètes. Hein, est-ce que vous vous rappelez de cet événement-là? Non? David se réfugie avec Samuel. Samuel, il dit, viens, on va aller dans l'école des prophètes. Puis, ils se mettent à prophétiser. Puis là, Saül envoie des soldats. Puis, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, l'Esprit de Dieu tombe sur le soldat. Il se met à prophétiser. Saül envoie un autre. Même affaire. Finalement, après trois tentatives, Saül lui-même s'en va chercher David. Qu'est-ce qui arrive? L'Esprit de Dieu tombe sur lui, saisit Saül contre son gré, et il passe la nuit quasiment tout nu à prophétiser. On aurait pensé que, suite à cette démonstration de protection et de puissance, David serait sécure, là. Il dirait, ben, il y a rien qui peut m'arriver, Dieu va me protéger. Hein? On a vu ça, là. Et pourtant, il prend peur. C'est comme nous, hein? Souvent, on a confiance en Seigneur, il nous montre sa fidélité, puis, whoop, c'est pas long après, whoop, on pense plus à Dieu. Il arrive une situation paniquante, une menace quelconque, puis on fait plus confiance. Le lendemain, des fois, c'est une question d'heure, pas vrai? Donc, Saül prend fuite de. David prend fuite de Saül, va récupérer l'épée de Goliath, et pourtant, est-ce que l'épée de Goliath l'avait délivré? Non. Et là, David, il met sa confiance en quoi? Ben oui, il met plus sa confiance en Dieu. Il met sa confiance dans l'épée d'un héros qui a battu par la foi. Et il prend une décision poussée par la peur, l'anxiété. Il se réfugie chez Achish, le roi de Gath, mais... Et là, c'est un gros « mais » sans avoir consulté l'Éternel. Où est Dieu? Qu'est-ce qui a poussé cette décision-là? Est-ce que vous vous rappelez quand on a vu ça, là, la menace? Il y a une situation qui vient dans ta vie, comme une éruption, comme un tremblement de terre, comme un coup de tonnerre. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie qui met quelque chose sous une menace, ta santé, ta sécurité financière, ta famille, ta maison, peu importe, là. Il y a une situation qui te menace. Et là, ça vient frapper ton cœur. Mais si ton cœur, au centre, c'est toi qui es au centre, tu dépends de tes forces, tes pensées, tes projets, tes desseins, qu'est-ce qui va arriver? Tôt ou tard, il va arriver une situation que tu ne peux pas répondre, là. Ça te dépasse. Mais là, ça fait tellement de temps que tu t'appuies sur toi que Dieu, tu vis une vie égocentrique au lieu de christocentrique, que tu es dépassé, tes forces et tout ça, et qu'est-ce que ça produit? Ça produit de l'anxiété. L'anxiété, la peur. Mais l'anxiété, c'est pas juste une peur, il y a une araignée. Non, c'est une peur profonde face à une situation qui menace ta santé, ta sécurité, ta famille, quelque chose d'important, là. Et tu vois que tu ne seras pas capable d'y faire face, c'est ça l'anxiété. Fait que David, il est anxieux, hein? Mais le problème, c'est quand on est anxieux, là, où est Dieu? Où est Dieu? Dieu n'est plus dans le portrait. Hein? Et ça, c'est ce qui arrive à ton cœur et au mien quand on est égocentrique. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'on vit une vie égocentrique jusqu'à temps que ça arrive. Moi, depuis qu'on a vu ça, là, quand l'anxiété me pogne, ça arrive, je me dis, oh, c'est difficile de se l'admettre, mais ça veut dire que je suis en train de vivre une vie égocentrique. C'est-à-dire centré sur moi, centré sur mes désirs, et donc sur mes forces, mes capacités et tout ça. Si je vis l'anxiété, c'est correct, on peut vivre, on peut tous vivre l'anxiété, mais si je suis en proie à l'anxiété, OK? L'anxiété vient m'envahir, là, puis je suis plus capable, là, ça veut dire que Brian, t'es en train de vivre une vie égocentrique. Parce que tu t'appuies plus sur Dieu, là. David, il s'appuyait plus sur l'évidence que Dieu avait dit. Dieu avait dit, je t'ai oué roi et je vais être avec toi. Et il l'a prouvé avec Saül. Puis l'esprit, là, qui était plus fort que l'esprit de Saül. Pourtant, hein? Fait que David, qu'est-ce que ça fait l'anxiété? On a vu ça. Ça nous amène à prendre des décisions insensées. Saül, on l'a vu avec Saül. Saül a pris des décisions insensées. Qu'est-ce que ça veut dire insensé? Dieu n'est pas dans le portrait. C'est ça une décision insensée. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. OK? Une décision insensée, c'est tu prends les choses en main et tu fais parce qu'il faut, OK? Il faut. Puis humainement parlant, là, oui, ça arrive souvent que devant une situation, hey, j'ai pas le choix. Mais ça, c'est si Dieu n'est pas dans le portrait. Et si tu prends une décision, si je prends une décision quand Dieu n'est pas dans mon portrait, là, la Bible dit que c'est insensé. Insensé. David prend une décision insensée ici. Et le problème, c'est que ce n'est pas sans conséquence, hein, quand on prend des décisions insensées. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que David se trouve en danger extrême. Ouf, j'aurais pas voulu être dans ces bottines-là. Il se rend là pensant qu'il va être en sécurité. D'abord, c'est un peu ridicule, David. Tu t'en vas dans la gueule du lion, là. T'as abattu leur héros à Gath, là. Tu t'en vas là pour te réfugier, voyons. Et là, il arrive, puis c'est pas long que je m'imagine là, qu'il se fait entourer par des soldats qui l'ont vu sur le champ de la bataille, là. Puis qu'il veut régler son compte. Hey boy! Fait que là, extrêmement dangereuse pour sa vie. Et la seule façon qu'il réussit à il est vraiment ingénieux quand même, David, là, c'est qu'il joue le fou. Puis je ne sais pas si que dans ce temps-là, les gens, ils s'imaginaient peut-être comme dans le Moyen Âge que ça s'attrapait, cette affaire-là. <T'sais>? Mais il laisse couler la bave sur sa barbe, il fait des marques sur les cordes des portes, il joue le fou, là. Puis, on l'a vu, là, le roi, il décide, je manque-tu de fou pour que vous me l'aviez apporté. Mais c'est humiliant, tout ça, là. Il subit l'humiliation. Il subit la moquerie de la part des hommes de Gath, pour qui il était auparavant un homme de grande importance, ayant abattu leur héros. Donc, il vit ça. Puis aussi, il vit, à quelque part, la honte. La honte et la culpabilité d'avoir pris une décision qui l'a amené loin de Dieu. Comment je sais ça? C'est pas marqué? Hein? C'est pas marqué? Non? Mais, comme je vous ai dit au début de la série, heureusement qu'à plusieurs endroits dans la vie de David, on va voir qu'est-ce qui se passe dans son cœur, parce qu'on peut aller voir dans les psaumes. Et les psaumes nous disent exactement ce qui se passe dans son cœur. Fait que tournez avec moi dans le psaume 34. Le psaume 34, c'est marqué de David lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Pourquoi Abimélec et pourquoi pas Achish? Ça dépend des fois dans les Écritures, ça peut être le nom du père, OK? Comme la dynastie de... c'est pour ça que ici c'est Abimélec. Donc, c'est exactement après que David s'enfuit et qu'il cherche refuge dans la caverne, dans la grotte d'Adullam, il écrit ça. « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. » Il me semble qu'après une affaire de même, là, j'aurais pas eu le goût de louer le Seigneur. Là. Mais regardez, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel, la révérence. Qui donc aime la vie et désire voir les jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel l'entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Amen. Donc, David se réfugie dans la caverne d'Adullam, et il écrit ce psaume. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'un cœur qui bat pour Dieu, un cœur qui vit pour Dieu, c'est pas un cœur parfait. C'est pas un cœur qui prend pas des mauvaises décisions des fois. C'est pas un cœur qui subit pas les conséquences de ses mauvaises décisions, mais c'est un cœur qui se tourne vers Dieu. Il se tourne vers Dieu. Ici, dans le psaume, au verset 1 à 4, David nous invite. Hein? Venez, je veux bénir l'Éternel. Louez-le avec moi, dites avec moi la grandeur de l'Éternel, verset 4. Il nous invite à le louer et à le chanter. Et pourquoi? Ben, il donne les raisons. Verset 5 à 8, sa délivrance. J'ai crié à Dieu, il m'a délivré. Sa protection, l'Éternel, l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent. Sa provision, il a pourvu. Sa présence, sa rédemption et tout ça. Et son attitude. Quelle est l'attitude de Dieu lorsque je me rends compte que j'ai pris une décision insensée, que je me suis éloigné de Dieu, que j'ai vécu les conséquences de ces choses-là, que même ma famille, mes proches, ma femme, mes amis ont pu subir des conséquences de cette mauvaise décision-là? J'en ressens la culpabilité, j'en sens la honte. Et quelle est l'attitude de Dieu? Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. L'accueil de Dieu, c'est la raison pour laquelle il nous invite aussi à le louer, à l'adorer. Donc la honte, j'ai dit qu'on allait parler de la honte ce matin, c'est pas un sujet facile. C'est quoi la définition de la honte? Un sentiment d'abaissement, nous dit le dictionnaire, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. Il y a des synonymes, gêne, confusion, embarras. Les signes physiques de la honte, contrairement à la peur fait blanchir la face, hein, quand tu as vraiment peur. Quand tu as honte, qu'est-ce qui se passe? Tu rougis. C'est drôle, hein? Il y a des signes physiques. Et une des caractéristiques universel partout dans le monde. Il y a des gestes que nous, les êtres humains, vont faire, que ce soit n'importe où, en Afrique, en Asie, ici, en Amérique du Nord. Par exemple, la honte, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est ça. Peu importe la culture, peu importe, on va se toucher le front et on va se baisser la tête. Ou on va faire ça comme ça. Vous savez, dans les textos, là, quand comment on appelle ça, les émoticônes? Ouais, les emojis, là. Il y en a une qui est comme ça, là. Vous avez vu? C'est comme, oh non. Mais ça, c'est vraiment, vraiment significatif. Ah, j'ai oublié d'acheter une carte à ma femme pour sa fête. OK, fait que ça, c'est la définition du dictionnaire. Dans la Genèse, au tout début, au deuxième chapitre, il est question de honte. Parce que c'est marqué, l'homme et la femme étaient tous deux nus, sans éprouver aucune honte. Donc, je pense que si dans les prochaines minutes, on prend la peine de juste creuser ça un peu, là, on va essayer de comprendre un peu plus sur la honte, qu'est-ce que c'est. Là, Adam et Ève sont là, ils n'ont pas d'habits, et l'auteur prend la peine de remarquer qu'ils n'ont pas honte. Ils sont nus, mais ils n'ont pas de honte. Okay? Il prend la peine de dire ça. Okay, pourquoi? Parce que normalement, nous, si on serait tout nus, on aurait honte. Pas vrai? Donc, ils sont là. L'auteur prend la peine de remarquer qu'ils n'avaient pas, ils n'éprouvaient pas de honte. Mais après qu'ils aient péché contre Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent conscience, nous dit le texte, qu'ils sont nus, qu'ils étaient nus, et ils s'attachent des feuilles de figuier autour de la taille et ils se cachent. Il y a quelque chose de fondamental qui est changé, là, qui a changé. Ils se cachent et ils cherchent à se couvrir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fallait couvrir? Hein? Il semble y avoir une notion de couvrir quelque chose dans cette idée de honte. Pas vrai? Parce qu'il dit, il était nu au début, il n'y avait pas d'honte, il n'y avait pas honte. Mais là, après le péché, il se cache, il se couvre. Parce qu'ils ont honte. Qu'est-ce qui avait changé avec le péché? Dieu les avait créés parfaits et leur corps était glorieux. Mais là, ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu la perfection. Ils ont perdu la gloire qu'ils avaient auparavant. Et ils se voient nus. Okay? Ils ne se voyaient pas nus avant. Mais là, ils se voient nus. La Bible dit, ils prennent conscience qu'ils sont nus. Ça veut dire quoi, nus? Ça veut dire que tu n'as pas de couverture. Mais avant, même s'ils étaient nus physiquement, ils ne se sentaient pas nus. Ils ne se voyaient pas nus parce qu'ils avaient une gloire. Une gloire. Mais là, ils ont perdu quelque chose de très important, de fondamental. Ce n'était pas un sentiment d'excitation. « Oh, wow, Ève, je n'avais pas vu que tu étais nue, wow! » Non, c'était la honte. C'était de la honte. C'était comme « Vite, cherchons des feuilles, couvrons-nous. » Ils sont confondus, hein, c'est un synonyme. Honteux, confondus parce qu'ils ont perdu quelque chose de très, très, très important, de fondamental, qu'ils n'auraient pas dû perdre. OK? C'est un peu comme lorsque tu perds tes clés de voiture, puis tu es loin de la maison, puis la famille est là, et puis tu as perdu, tu ne trouves pas tes clés. C'est comme gênant, hein? C'est comme honteux, là, parce que là, voyons, Brian, est-ce que tu as mis tes clés? Une fois, on était avec la jeunesse dans un. C'est quand j'étais jeune, là. Rafting. Puis j'étais avec mon ami qui avait son auto. Puis on passe l'après-midi, belle journée, sur la rivière. On vient à 5 heures pour retourner au camp pour souper. Il ne trouve pas ses clés. Oh! Là, j'ai dit, ils ne sont pas dans tes poches? Non, ils ne sont pas dans mes poches. On cherche partout à la terre, on demande toutes les 50, 60 jeunes de regarder partout. On réussit à ouvrir le coffre avec un tournevis, on défait le banc arrière, on regarde. Finalement, après une heure, il dit, hop, oh, c'est quoi ça? Ils sont là, mes clés, je les avais attachées à l'intérieur de mon costume de bain. Il a perdu quelque chose de fondamental qu'il ne devait pas perdre. Ou, mettons, tu perds ton passeport dans un aéroport. Ça nous est arrivé à nous, là, puis il faut que tu traverses l'aéroport pour prendre un autre vol. Là, tu es confondu, tu es dans le désarroi. Tu as perdu quelque chose de très important qu'il fallait garder à tout prix. Et là, tu te sens comment? Fier? Non. Tu peux te sentir vraiment minable, honteux, surtout si cela occasionne des ennuis à tes proches. Et la honte, c'est un peu comme un chien qui a la queue entre les deux pattes. Hein? Quand un chien a la queue dans les deux pattes, là, c'est la honte. Avant de pécher, Adam et Ève étaient nus, mais n'avaient pas honte. Là, ils ont honte. Ils sentent le besoin de se vêtir pour couvrir quelque chose qui leur fait défaut, qui leur manque. On dirait que depuis ce temps-là, nous, les êtres humains, on ressent le besoin de ne pas être découvert totalement. Quand nous sommes conscients que ce n'est pas tout beau, physiquement ou moralement. Donc, il y a une notion de vouloir couvrir quelque chose qui est rattaché à la honte. Il ne faut pas que je me fasse découvrir, me fasse voir sous mon vrai jour, parce que ça exposerait que je suis faible, que je suis laid, que je suis défait, j'ai un défaut à quelque part sur le plan physique ou moral. Tout ça, c'est les conséquences de la chute. Alors, la honte semble être l'émotion qui se situe à l'opposé de la fierté. La fierté, OK? Je suis fier de ci, je suis fier de ça. Bon, bien, la honte, c'est le contraire. C'est une émotion reliée à un manque important, un défaut réel ou perçu. Savez-vous que les supermodèles, là, les filles qui gagnent des millions de dollars, là, ils ont toutes, à peu près, au moins une chose qui ne veulent pas que tout le monde sache. Un défaut corporel à quelque part. Le nez est un petit peu trop long, ou il y a une dent croche, ou je ne sais pas. Le nombril n'est pas beau. Et on ne penserait pas ça, hein? Mais c'est le cas. Ou bien tu devrais être capable de faire quelque chose et tu ne l'es pas capable. Comme les hommes de Saül devant Goliath, ils étaient dans la honte parce qu'ils auraient été supposés de faire face à l'ennemi, mais ils manquaient de force. C'est une honte. Tu manques quelque chose que tu devrais avoir. On peut avoir honte de son corps, de son apparence, de son manque de capacité physique ou intellectuelle. Ça, c'est négatif et destructeur. Nous, les êtres humains, nous sommes spécialistes aussi pour faire ressentir la honte aux autres. Lorsqu'ils ont un défaut physique ou un comportement différent, lorsqu'ils posent des gestes qu'on n'aime pas. On peut aussi avoir honte de quelqu'un de proche. « Papa, fais-nous pas honte avec tes niaiseries. » Celle-là, je l'ai entendu. Hein? On peut avoir honte d'une personne. Jésus a dit, « Si quelqu'un a honte de moi, devant les hommes, j'aurai honte devant le Père aussi. » Ça nous amène à se distancer, à se dissocier parce que le comportement, la personne risque de me faire perdre face, de me faire perdre le respect des autres, et là, ça serait une honte. Un autre sens du terme se rapporte au sentiment qui accompagne la culpabilité, comme dans le psaume 34. D'avoir manqué un commandement, un précepte, une consigne morale, tu devrais avoir fait quelque chose et tu ne l'as pas fait, c'est un manque important. À plusieurs reprises, Dieu s'indigne du fait que son peuple continue de pécher contre lui dans leur idolâtrie, mais sans éprouver de honte, tu vois. Ça devrait... Là, c'est comme normal. La honte, ça peut être destructeur, ça peut être négatif, mais lorsqu'on manque à la loi de Dieu, à ses consignes, c'est normal de se sentir coupable et aussi... honteux, dans un sens, parce qu'on a manqué à quelque chose. On n'a pas été comme on aurait dû. Lorsque Dieu envoie des ennemis à Babylone, à Syrie, pour envahir, assujettir son peuple, eh bien, ils vivent la honte d'avoir perdu leur position comme peuple favorable et protégé par Dieu. Paul utilise le terme dans Romains 6, 21 en parlant du comportement des chrétiens avant qu'ils soient connus de Dieu. Il dit « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. » Donc ici, la notion de honte, c'est qu'on a manqué à la justice. On aurait dû avoir un comportement juste, on aurait dû vivre d'une façon correcte, et on ne l'a pas fait. Donc ça, c'est la honte de ne pas avoir fait ce que normalement on aurait dû faire. C'est associé à la culpabilité, mais c'est plus que ça. D'avoir failli à une règle importante de conduite, je suis honteux de ma conduite. Pas simplement le fait d'avoir été découvert, mais de ne pas être fier de ce que j'ai fait. C'est je regrette, oui, mais c'est plus que ça. Je me vois comme petit, comme minable d'une certaine façon. Ma mère nous disait souvent, « Tu devrais avoir honte d'avoir fait ça. » Ouais. Parfois, c'était vrai. Des fois, c'était un peu exagéré. Parfois, on aimerait bien que quelqu'un qui a commis un crime répréhensible, cruel ou sadique, ben, expérimente un peu d'honte pour commencer. Hein? On aimerait ça parce que c'est normal. Afin de pouvoir ensuite se repentir, car je crois que la honte sert finalement à ça. Elle sert finalement à nous pousser vers Dieu. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a un enjeu important. L'enjeu de la honte. L'enjeu de la honte, c'est que ça nous amène à se cacher de Dieu. Pas juste se cacher, mais se cacher de Dieu, comme Adam et Ève ont fait. Lorsqu'on fait quelque chose dont on a honte, on pêche, on faillit à la loi de Dieu, bien la honte n'est pas mauvaise en soi comme sentiment, mais par contre, la honte, si elle nous empêche d'aller vers Dieu, c'est là que c'est néfaste. Souvent, la honte nous empêche de nous tourner vers Dieu. On ne veut pas qu'il nous voie sous notre vrai jour. On fait comme Adam et Ève, on se cache de Dieu. On veut d'abord régler nos affaires pour redevenir une bonne personne, pour ensuite se présenter devant Dieu. Hein? Mais on se trompe en faisant ça pour deux raisons. On se trompe en faisant ça. La première, c'est que tu ne seras jamais sans faute aux yeux de Dieu. Donc, si tu attends pour être correct, là, tu te trompes royalement. Tu ne seras jamais correct devant Dieu. Jamais. On pêche à chaque jour, plusieurs fois par jour, et même sans s'en rendre compte. Et deuxièmement, c'est que Dieu possède la seule solution pour ta honte. Et c'est ça qui est merveilleux. Ici, dans le psaume 34, verset 6, David expérimente ça. Il dit, quand on tourne les regards vers lui, il me semble que, je ne sais pas si David il a tourné les regards tout de suite à Dieu, là. Peut-être ça y a pris un laps de temps, tu sais. Parce qu'avec ce qu'il a vécu, c'était traumatisant, c'était humiliant, c'était honteux. Il prend conscience qu'il a pris une décision insensée, une décision qui a eu des retombées. Mais il dit, quand on tourne les regards vers lui. Ça, c'est un des versets, mes versets préférés dans toute la Bible. Puis un chant, on chantait avant ici, quand on tourne les yeux vers toi, on est rayonnant de joie. Est-ce que vous vous rappelez, certains d'entre vous? C'est un de mes versets préférés de la parole. David loue le Seigneur non seulement parce qu'il a délivré de ses ennemis, mais aussi parce que lorsqu'il s'est tourné vers Dieu, il n'a pas vaincu le sentiment de honte de sa part. C'est comme si Dieu, il n'en rajoute pas par-dessus. Quand tu tournes vers lui, là, hein, le danger, là, dans notre cœur, c'est quoi? Il va en remettre, là. Hein? Quand tu as une chicane avec quelqu'un, puis tu vas pour te réconcilier, souvent, on a peur, hein? Qu'est-ce qui se passe? On a peur, pourquoi? On a peur que l'autre, il nous attaque. Là, je suis là pour demander pardon, puis là, il va m'en remettre encore, là, sur le nez. Pas vrai? Est-ce que Dieu fait ça?
Non,
il ne fait pas ça. Quand on tourne vers lui les regards, tu n'as pas à avoir peur que Dieu va t'en remettre encore une couche, là. Ouais, tu viens vers moi, hein, t'es piteux, là, t'es honteux, hein, ouais, je te l'avais dit, hein, puis là, la prochaine fois, là, j'espère que tu vas avoir appris ta leçon, parce que c'était vraiment pas beau ce que t'as fait, hein, puis t'as-tu pris conscience de vraiment, vraiment, vraiment ce que t'as fait? Il en rajoute, là. Te rabaisse encore. Souvent, ce qu'on a vécu dans notre vie personnelle avec nos parents, avec notre conjoint, on transfère à Dieu. Donc, l'enjeu de la honte, c'est que ça t'empêche de revenir à Dieu. Tu as peur que Dieu t'en remette encore sur le nez. Tu veux devenir une meilleure personne avant de te présenter devant Dieu. C'est foutu à l'avance. Je te le dis à l'avance, ça ne marchera pas. Et aussi parce que Dieu a la seule solution pour ta honte. Et donc, ça, c'est le dernier point, la réponse de Jésus. Jésus, qui n'avait aucun péché, la Bible dit, il est devenu péché pour toi. Devenu péché pour toi. Sur la croix, Jésus a dit, c'est comme s'il disait au Père, « Je n'existe plus, Père. C'est les péchés de Brian, c'est les péchés de toi. C'est ça. Il est devenu péché. Et Dieu l'a frappé de son jugement sur ton péché. » La prophétie d'Ésaïe dit ceci de Jésus, « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre aride. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus a été méprisé. Il a subi le rejet et la honte, mais pas parce qu'il avait péché. Pour toi. Et pour moi. Il nous est déclaré dans Hébreux 12, verset 2, « Regardant à Jésus, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection, ce Jésus-là, on est encouragé à avoir les yeux sur lui, en échange, Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. » En méprisant la honte qui s'y attachait. Qu'est-ce que ça veut dire? La crucifixion. La crucifixion était le summum de la honte. On t'exposait nu, sauf un petit linge autour de la taille. C'est-tu pas assez honteux, là? On faisait un spectacle de ta faiblesse. et de ta souffrance. Un spectacle. T'es souffrant, là? T'aimerais ça être souffrant dans un lit d'hôpital, puis il y a des centaines de personnes autour qui te regardent, puis qui rient de toi? On fait un spectacle de ta faiblesse, de ta souffrance, et finalement, on t'expose publiquement comme un criminel ayant commis un acte ou des actes tant répréhensibles de t'enlever tout droit à la vie. Il n'y a pas de mort plus humiliant que ça. Il n'y a pas de mort plus honteux que ça. Mais qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce qu'il est dit ici? Pour la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte. Qu'est-ce que ça veut dire, mépriser la honte? Quand on parle de mépriser quelque chose, on parle de tenir ça comme pour pas grand-chose. Méprise. Je peux mépriser une personne, ça veut dire que je la considère comme petite, pas importante. On peut mépriser une équipe de sport, on peut mépriser toutes sortes de choses. Ça veut dire que c'est petit à nos yeux, c'est pas important. Okay? La croix, c'est le summum de la honte. Jésus considère cette honte-là comme quoi? Très, très, très peu de choses. Pourquoi? À cause de la joie qui lui était réservée. Il a considéré la honte de la croix comme très petite chose. Mépriser la honte pour la joie qui était très réservée. Jésus a accepté de traverser cette forme horrible de souffrance et de mort et de honte pour toi, mon ami, pour toi. Il a vécu la honte, mais c'est écrit qu'il a méprisé. Pardon. Cela signifie tenir pour rien, pour quelque chose de peu d'importance, pour peu de valeur. Jésus méprise la honte associée à la mort sur la croix. Il tient pour peu de choses de devoir subir cette honte. Pourquoi? Parce qu'il l'a considéré plutôt la joie qui lui était réservée. Et cette joie qu'il attendait était si grande, si immense, que la honte semblait très peu de choses en comparaison. Quelle joie l'attendait? Bien sûr, la résurrection. Bien sûr, l'ascension, d'être réuni avec son Père, bien sûr. Mais il y avait, écoutez ce que le même auteur dit dans le même passage, Hébreux 2, plus loin, versets 10 à 13. En effet, celui, Dieu, pour qui et par qui toutes choses existent, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut, Jésus. De fait, celui qui procure la sainteté, Jésus, et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il est dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confie en lui, et me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Donc, une des très grandes joies qui attendait Jésus, là, c'était de conduire beaucoup de fils, de filles, à partager sa gloire avec lui. La grande joie que Jésus attendait, assurément, pour pouvoir mépriser l'énorme honte de la croix et d'endurer ses souffrances, c'était la joie de t'avoir, toi comme son frère, toi comme sa sœur. Et savez-vous quoi? Il n'a pas honte de t'appeler mon frère, ma sœur. Ah, merci, frère. Il y en avait une là, mais elle était loin. Jésus a vaincu la honte de la croix pour toi, pour la joie qu'il anticipait. Mets ton nom dans la phrase suivante. William, je n'ai pas honte de t'appeler mon frère. Ma sœur, mets ton nom. C'est Jésus qui te parle.
T'as-tu mis ton nom? Y a-tu quelque chose qui t'empêche de mettre ton nom? La honte, peut-être? Mais lui, il n'a pas honte de toi. Donc, on disait tantôt que l'enjeu de la honte, c'est que ça nous empêche d'aller vers Dieu. Et pourtant, si tu attends pour être une meilleure personne, ça n'arrivera pas, c'est foutu à l'avance. Et deuxièmement, Jésus, lui, il a la réponse à ta honte. Pourquoi? Parce qu'il l'a supporté à la croix pour qu'il puisse t'adopter comme son enfant bien-aimé, dont il n'a pas honte. Et il y a un autre aspect merveilleux à considérer. On fait la boucle avec Genèse. Vous vous rappelez ce que Dieu a fait pour Adam et Ève? Lorsqu'ils éprouvaient de la honte d'avoir péché, d'avoir perdu la justice, la perfection, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a habillés. Wow! Dieu les a cherchés, hein? Ils se cachaient. Et c'est ça aussi la beauté de l'Évangile, c'est que Dieu nous cherche. Dieu te cherche. Et Dieu les habille. Tu vois pas la beauté de son amour, la beauté de sa grâce là-dedans? Et oui, comme quelqu'un a dit, il a fallu qu'un animal meure pour ça. Il a fallu qu'il y ait un sacrifice pour ça. Dieu les a couverts de peaux d'animaux. Et dans le Nouveau Testament, pardon, il nous est signalé que Jésus est l'agneau de Dieu, que Dieu pourvoit, n'est-ce pas? Et dans Apocalypse, au chapitre 7, verset 9, Jean dit, « Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Un peu plus loin, on explique à Jean que ces gens-là, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qu'ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau, habillés dans des robes blanches qui ont été lavées dans le sang de l'agneau. Ils ne sont plus nus. Ils sont revêtus de robes qui proclament qu'ils sont justes, revêtus de la justice de l'agneau de Jésus. En effet, dit Paul dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. » Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas d'honte. Comment expérimenter une telle chose? Comment être libéré de la honte? La honte de t'être éloigné de Dieu comme David, d'avoir pris des décisions insensées qui ont causé des dégâts pour toi et pour ta famille possiblement. Bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te voit tel que tu es et qu'il t'aime. Et qui te cherche pour te couvrir. Pourquoi attendre pour essayer de devenir une meilleure personne pour t'approcher de Dieu? Est-ce que Jésus est venu pour les bonnes personnes? Non. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes ou ceux qui se voient justes, mais les pécheurs, pour ceux qui se reconnaissent comme étant pécheurs devant lui, qui peuvent éprouver de la honte d'avoir vécu loin de lui, mais qui savent que s'ils se tournent vers Dieu, Dieu va les accueillir. Jésus veut te revêtir ce matin de sa justice. À la croix, il a accepté de porter tes fautes, tes péchés, d'en payer le prix ultime de la mort, afin que tu puisses être revêtu de sa justice, revêtu de sa peau. Il a littéralement donné sa peau pour toi. C'est l'agneau de Dieu qui est sacrifié, et Dieu prend sa peau et te couvre de de la peau de l'agneau. Approche-toi de lui ce matin. Viens, n'aie pas peur. Il t'accueille véritablement. Il veut de toi.